podcast copro par monimmeuble.com.
Bienvenue dans notre émission Podcast Copro, une émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité juridique de la copropriété. Je suis en compagnie de Charles Bobot, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles.
Bonjour Isabelle.
Bon, ben je suis ravie de te retrouver pour notre petit point juridique du marché de la copropriété. Et encore cette fois, hein, puisque bon, il se passe des choses tous les jours, on a une actualité très riche. Alors bien sûr, ben on approche bientôt des Jeux Olympiques. C'est dans quelques mois. Et ben, comme dirait l'autre, ça commence à frémir. Et bien sûr, ça va pas satisfaire tout le monde parce que ben on s'aperçoit quand même qu'il y a des points de sécurité, il y a des alertes des professionnels de l'immobilier. Et notamment là où on les attend pas forcément, mais ça m'a amusée puisque la FNAIM du Grand Paris a envoyé un avertissement à tous ses adhérents sur la sécurité des balcons et des garde-corps, parce que bon, on peut imaginer qu'on va tous s'entasser sur les balcons pour essayer de voir quelque chose du spectacle d'inauguration de ces JO. Hein, c'est ça, hein, c'est quand même amusant. Bah
en effet, hein, c'est un spectacle. Faut essayer de rappeler, hein, il y a des gens qui sont aussi heureux d'avoir des adeptes du sport ou de la location saisonnière. Mais il y en a qui sont, alors on va pas dire grincheux, mais en tout cas attentifs et qui alertent sur certains risques. Et la FNAIM Grand Paris s'est illustrée en indiquant qu'en effet, la sécurité des balcons et des garde-corps, puisqu'on a quand même connu des cas sinistres où on a eu des effondrements de balcons, et donc il faudrait pas que cet événement heureux se transforme. Donc c'est pourquoi les syndics de copropriété, concernant ces parties qui sont des parties communes parfois, des parties privatives également, ou des parties communes à jouissance privative, en tout cas, si on surcharge les balcons pendant les Jeux Olympiques sur les belles vues sur la Seine, eh bien il y a un risque, donc un point d'attention est mis, sachant que naturellement les syndics ne peuvent pas accéder aux balcons, donc d'où une illustration avec un schéma indiquant précisément les points de dangerosité qui peuvent affecter ces fameux balcons.
Alors justement, bah vous en avez profité pour rappeler un petit peu justement les tenants aboutissants de la nature de ces balcons, puisque comme vous l'avez rappelé Charles, il y a des parties communes ou privatives, et donc ça fait l'objet d'un article. Hein, c'est ça.
C'est un hasard du calendrier, mais on a fait un article qui, à mon sens, est un article assez fouillé et qui devrait être vraiment bien conservé, parce qu'il n'y avait pas d'article à ma connaissance qui distinguait aussi bien cette difficulté qu'on a à classer les balcons parmi les parties communes ou les parties privatives, au point même que quand on ouvre le code de la copropriété chez Lexis ou chez Dalloz, on a deux définitions inverses. C'est-à-dire que on nous dit que dans le silence du règlement copropriété, pour l'un, ça serait une partie commune, pour l'autre, ça serait une partie privative. Et pour pouvoir mieux s'y retrouver avec Ramouna Abdella, eh bien, on a fait une analyse où on constate toutes les jurisprudences en fonction des deux parties qui sont la substructure et la partie superficielle. La substructure, c'est de gros œuvres, hein, c'est l'ossature du balcon qui est souvent classée partie commune à cet effet, puisque c'est la dalle qui est reliée au bâtiment, tandis qu'on a une autre partie, la partie superficielle, qui clôt le bâtiment par les garde-corps, les barres d'appui et les balustres. Eh bien, cette partie, elle est souvent classée comme privative, mais il faut vraiment faire une analyse assez détaillée de ce qui est prévu dans le règlement de copropriété et des jurisprudences, mais surtout, dans le cadre des mises à jour des règlements de copropriété, on voit qu'il y a des préconisations du GRECO, de la numéro 14, qui recommande de mettre en conformité les parties communes à jouissance privative quand ça figure comme ça dans l'état descriptif de division, mais non dans le règlement. Et enfin, on s'intéresse aux conséquences, hein, parce que ça peut être
des
conséquences en cas de rénovation, en cas de
travaux,
avec les grands PPT qui s'annoncent, les isolations thermiques par l'extérieur, tout ça, ça peut toucher au balcon. Et c'est généralement quand on vient toucher au portefeuille qu'on s'intéresse à cette nature. C'est pas qu'un débat théorique.
Et oui, puisqu'après il y a une répartition des charges, et ça sera pas la même, hein, selon que ce soit une partie privative ou une partie commune. Donc, en cas de sinistre, ben, il faut savoir à quoi s'attendre. Alors justement, ben en parlant de sinistre, malheureusement, on a encore eu un épisode d'effondrement spectaculaire dans le centre de Toulouse, dans le vieux centre, hein, bien sûr, de Toulouse. Et ces deux bâtiments, hein, qui se sont effondrés l'un après l'autre. Et là, bon, évidemment, c'est des immeubles en copropriété, donc on est un petit peu concerné. On se demande comment on a pu en arriver là. Et c'est là qu'intervient à nouveau le sujet du diagnostic structure obligatoire pour contrôler l'état structurel des immeubles. Voilà. Alors bon, c'est quelque chose qui revient depuis un petit moment. Mais voilà, là, pour le coup, le projet de loi, maintenant on a adopté cette loi de l'habitat dégradé, a un article qui prévoit justement de réaliser ce diagnostic.
Alors, c'est vrai que malheureusement, les actualités sur les effondrements nous rattrapent, puisque après Marseille et Lille, aujourd'hui, c'est Toulouse. Et encore une fois, c'est, comme c'était le cas à Lille, on n'est pas dans une zone périphérique, excentrée. On est vraiment dans le centre et c'est assez spectaculaire et inquiétant. Il y a les mairies qui sont concernées, puisque les procédures qu'on appelait péril imminent, qu'on appelle maintenant mise en sécurité de la vie, eh bien, elles doivent être prises quand il y a des signalements. Il y a un sujet d'avoir véritablement une compétence et cela peut se faire à travers les plans pluriannuels de travaux puisque je fais le pont en effet sur le diagnostic structure qui est réclamé depuis longtemps par un certain nombre de professionnels qui, à chaque fois qu'il y a ce type de sinistre, alertent à nouveau les pouvoirs publics en indiquant que ce serait un diagnostic qui devrait être systématique et obligatoire. D'autres s'y opposent en indiquant que c'est pas réaliste puisque l'état structurel de l'immeuble, ça serait trop profond et peut-être même trop coûteux. Donc, il y a toujours eu ce débat qui était en vogue. Et là, il semble qu'avec ce projet de loi sur l'habitat dégradé qui n'est pas encore publié, on attend toujours quand même la dernière minute avant de considérer que ça l'est, mais on a un projet, en tout cas d'article, c'est le 126-6-1, qui indique l'obligation de réaliser ce diagnostic. Alors, il y aurait un pouvoir peut-être des maires d'indiquer les zones qui seraient considérées comme dégradées et l'obligation d'élaborer ce projet et une exonération pour les copropriétés qui auraient élaboré un projet de plan pluriannuel de travaux qui contient d'ores et déjà les éléments concernant le risque structurel. Donc là-dessus, on attend des projets de décret, mais en tout cas, au gré de ces actualités, eh bien, il semblerait un dispositif qui sera mis en place.
Alors ensuite, on a une actualité aussi, on va dire, un petit peu étonnante, suite à certaines annonces, notamment de la société Matera, la plateforme Matera, dont on a suivi un petit peu les péripéties. Puis aussi, on rappellera qu'il y a eu quand même une procédure, un procès de société qui émane des professionnels de l'immobilier. Et là, hop, renversement de situation. Matera, à qui on reprochait de porter la confusion sur leur activité de syndic, donc proposer aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leurs immeubles, mais en ayant des assurances de syndic par ailleurs, devient à présent syndic professionnel. Alors syndic, attention, avec une petite nuance, j'ai bien aimé dans l'intitulé, c'était syndic professionnel local. Je ne sais pas quelle est la différence entre un syndic professionnel et un syndic professionnel local, mais bon, voilà. Alors là, Charles, il faut un peu développer parce que...
Pour commenter cette actualité, je suis quand même assez prudent parce qu'on a plusieurs procédures judiciaires en cours.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit en introduction, il y a quand même des procédures en cours. Voilà.
Et je suis le conseil de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété et cette procédure, elle est menée de concert avec la FNAIM Grand Paris, le SNPI et Foncia. D'ailleurs, un arrêt d'appel qui est assez imminent concernant les questions du dénigrement, de la pratique commerciale trompeuse et de la violation de la loi Hoguet pour exercice illégal sans carte. Ce que je peux vous dire quand même comme réflexion, c'est que auparavant, on avait une offre concurrente au syndic professionnel où on proposait aux copropriétaires de devenir président syndic. Et là, on a en plus, donc c'est pas un changement de l'activité, on a en plus une proposition d'exercer l'activité de syndic professionnel. Une de mes préoccupations, c'est de se dire, est-ce que ça risque pas d'ajouter de la confusion auprès des copropriétaires qui auront peut-être du mal à discerner est-ce qu'ils ont un syndic ou non. Et donc, la question éventuelle du caractère trompeur. Mais là-dessus, à mon avis, la saga Matera n'est pas finie.
D'accord. Parce que moi, j'avais cru comprendre qu'ils avaient changé leur statut. Et c'était clairement précisé qu'ils avaient maintenant la possibilité d'exercer en tant que syndic professionnel.
Oui, je confirme, ils ont changé leur statut. Ils ont bien, auprès de la CCI maintenant, c'est bien indiqué qu'ils sont syndics professionnels. Néanmoins, dans leur offre à destination du copropriétaire qui devient syndic, eh bien, on peut pas...
Syndic bénévole, enfin syndic...
Syndic bénévole ou coopératif.
Coopératif, voilà.
Eh bien, ce dernier bénéficie de l'assistance de Matera, non pas en qualité de syndic, mais en qualité de prestataire de service. C'est ça la distinction qu'il faut bien comprendre.
Ok. Alors, bah, pour continuer, là, on est sur les néo-syndics.
La PropTech.
La PropTech, les néo-syndics, hein, on n'arrête pas. Alors là, cette fois-ci, c'est Bellman, hein, bon, bah, qui avait aussi repositionné son offre, qui n'était plus syndic, mais qui proposait donc une application logicielle au syndic. Eh ben, a fini par être en redressement judiciaire. Et au final, bah, on apprend que cette entreprise est rachetée par Inch.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au sein du cabinet Bellman, puisque dans un premier temps, il exerçait les fonctions de syndic en développant un logiciel avec des levées de fonds. Dans un second temps, c'est devenu un franchiseur qui proposait à certains de ses anciens collaborateurs de bénéficier de structures qui disposent du logiciel. Et dans un troisième temps, ils ont proposé directement la prestation de logiciels métiers qu'ils avaient développés. Et dans un premier temps, ils ont eu un plan de sauvegarde et puis finalement, les difficultés financières ont conduit au rachat par une société qui, elle, a une activité de logiciel métier. Donc, pareil, la saga n'est pas finie, on verra quelle sera ses suites.
Voilà, donc apparemment, un rachat pour 100 000 euros. Donc, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais j'imagine qu'il faut rattraper les dettes, hein, c'est ça. On achète les dettes aussi, hein, on récupère les dettes. Et les dettes, je sais pas de combien elles se montent, j'ai plus la somme, mais c'est pas mal. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme? Donc on a un
premier. Beaucoup de jurisprudence.
Alors ouais, avant de passer aux jurisprudences, on a un premier bilan et Décorénovons Paris Plus.
Oui.
Donc ça, c'est un dispositif d'aide hein, qui accompagne gratuitement les copropriétés et qui a été lancé, on le rappelle, en septembre 2022 par la ville de Paris. Donc ça, j'ai pas noté les chiffres, mais bon, on pourra développer, hein, Charles, éventuellement dans l'article que je produirai à partir de notre chronique, s'il y a rien à ajouter.
Non, voilà, c'est un dispositif d'aide et d'accompagnement gratuit pour les copropriétés. Donc, ça va dans le sens de la rénovation énergétique qui est attendue dans ce secteur.
Alors, effectivement, alors ce mois-ci, on a beaucoup de jurisprudence. Alors, on va pas tout développer, mais bon, voilà, on va dire un petit mot sur chaque apport, hein, de ce que ça nous apprend, ce que ça nous apporte pour la gestion des copropriétés. Alors, je pars sur la première. Il s'agit de la responsabilité du syndic. Et donc là, on nous dit que le quitus ne prive pas le copropriétaire de son action en responsabilité délictuelle. Alors ça, c'est une jurisprudence récente, hein, du 29 février 2024. Hein. Ce ne sont que des jurisprudences récentes. Hein.
Oui, bah, je fais une recherche minutieuse hein, pour retrouver ces jurisprudences qui sont parfois inédites, hein, que je traque. Et là-dessus, c'est vrai que le sujet de la responsabilité du syndic, le quitus, hein, on rappelle que lorsque le syndic vote le quitus, en fait, il met carte sur table, il indique quels sont les termes de son rapport de gestion, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et la question, c'est de savoir, une fois qu'il a fait cette confession, on va dire, est-ce que ça l'immunise d'action en responsabilité? Et là, on voit que le quitus est fragilisé, puisque même s'il est voté, eh bien, un copropriétaire qui aurait subi, par exemple, préjudice du fait des choses et qui voudrait attaquer en responsabilité délictuelle et non pas contractuelle sur le mandat qui est alors entre le syndic et le syndicat, eh bien, peut exercer cette action. Je rappelle juste que certaines associations de consommateurs recommandent de s'opposer systématiquement au quitus. Je trouve que c'est pas une bonne, enfin, c'est un avis personnel, hein, mais je trouve que c'est pas très constructif.
C'est pas une bonne approche. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans son syndic et donc on se donne la possibilité à tout moment de s'opposer. Voilà. Donc.
Et puis si le syndic, par exemple, pendant la période Covid ou d'autres périodes qui sont parfois un peu difficiles, bien, fait œuvre de transparence, c'est quand même quelque chose qui est recherché aujourd'hui, la transparence, eh bien, de refuser de voter le quitus comme principe, c'est un peu dommage. Donc, moi, ce que je crains avec cet arrêt, c'est que ça aggrave la situation où les syndics ne proposent même plus le quitus, puisqu'on voit que ça a un intérêt assez réduit.
Voilà. Bon, alors ensuite, on est sur les parties communes spéciales. Alors là, on nous dit qu'en l'absence de parties communes spéciales, les copropriétaires peuvent accéder à toutes les parties de l'immeuble, même celles dont la configuration justifierait de les exclure. Donc oui, en fait, parce que partie commune, il faut rappeler un petit peu ce que c'est qu'une partie commune spéciale.
Les parties communes générales, c'est celles qui sont à l'usage de tous les copropriétaires. Oui. Donc généralement, le sol, les façades. Bon, après, ça dépend. C'est chaque règlement de copropriété qui le stipule.
Qui précise.
Et les parties communes spéciales, c'est celles qui sont à l'usage de certains copropriétaires. Par exemple, un bâtiment ou certaines parties de bâtiment. Et dans notre arrêt, il y a une cage d'escalier principale qui n'a pas accès au... En fait, le copropriétaire, il n'a pas accès à cette cage d'escalier. Pour autant, il veut avoir accès. Il demande le badge, alors même que ça correspond pas par rapport à la configuration de son lot. Il n'en a aucune utilité. Mais il veut avoir accès. Et il va jusqu'en cour de cassation. Et la cour de cassation, elle lui donne droit. Elle lui dit, oui, vous pouvez avoir un badge, vous pouvez avoir accès au code, même si vous ne payez pas de charges, parce qu'on peut avoir des charges spéciales et pas de partie commune spéciale. Donc, même si vous ne payez pas de charges pour cette partie-là, même si on regarde la configuration, vous n'avez pas accès, eh bien, comme c'est défini, et donc c'est assez strict, c'est assez orthodoxe comme jurisprudence, comme c'est marqué que c'est une partie commune générale, vous devez avoir accès. Donc là-dessus, cet arrêt, je l'ai même partagé sur LinkedIn, et il y a beaucoup de syndics qui s'énervent, qui disent « mais on comprend pas s'il y a des places de parking aérien, s'il y a des clés de locaux techniques, de transformateurs, est-ce que il faut vraiment donner les accès, tous ces accès, même aux propriétaires qui n'ont pas véritablement l'utilité. »
Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est un peu étonnant, c'est un peu inversé, hein. Voilà, on n'a pas forcément l'utilité, on paye pas pour ces parties communes, mais on veut en avoir l'accès, et ben c'est possible.
C'est pour ça que moi je recommande une modification de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 65 pour qu'on prévoie que les charges communes spéciales impliquent la création de parties communes spéciales, parce que là, c'est typiquement le cas où on voit qu'un copropriétaire qui n'a pas accès et pourtant qui ne finance pas, eh bien peut bénéficier de l'accès. C'est une évolution souhaitable.
D'accord. Alors là, j'ai pas noté grand-chose sur cette jurisprudence. Le syndicat des copropriétaires peut-il adresser les charges au nouvel acquéreur avant la notification?
Oui, c'est un arrêt. Je reprends la date.
Alors ça, c'est un arrêt du 8 février 2024.
Oui, merci. En fait, c'est un arrêt qui est intéressant puisque la notification qui est faite par le notaire, ou en tout cas la notification qui est faite au syndic, comme quoi il y a un nouvel acquéreur, il y a un formalisme particulier. Et parfois, le syndic, il peut avoir l'information avant. C'était le cas dans cet arrêt où, via le notaire et via un règlement des charges qui était fait par le nouvel acquéreur, il n'a pas attendu la notification. Mmh. Et pourtant, encore une fois, la Cour de cassation, elle est stricte. La notification, rien que la notification, tant qu'il ne l'a pas reçue, il doit continuer d'adresser les charges à l'ancien acquéreur. Le nouvel acquéreur, ce sera seulement à compter de la notification qu'il pourra lui adresser.
D'accord. Donc là, voilà, c'est une mise au point. Hein. C'est vraiment une mise au point par rapport à ça. OK. Alors, ensuite, on a la contestation d'un appel de fonds qui a été décidé en Assemblée générale. Donc, cette contestation est soumise au délai de forclusion de 2 mois. Donc,
oui, ça, je ne vais pas m'étendre plus, ça c'est un rappel.
Ça c'est un rappel, donc ça c'est plutôt un arrêt un peu classique, hein, on va dire, qu'on connaît. Voilà, un de plus sur le sujet. Donc voilà, on va pas...
C'est une jurisprudence constante.
Oui, exactement. La clause réputée non écrite, alors ça c'était pour donner l'accès à la toiture terrasse par avance. Alors,
oui, ça je l'ai bien aimé, ça arrêt, il est intéressant. C'est un copropriétaire, bon, tout le monde rêve d'avoir un rooftop, une toiture terrasse, d'embellir son bien à travers parfois certaines ressources des parties communes. Là, tout pouvait prêter à croire pour ce copropriétaire qu'il pouvait y avoir accès, puisqu'il y avait une clause dans le règlement de copropriété qui prévoyait que les copropriétaires des étages supérieurs auront la faculté de percer la toiture terrasse. De plus, il y avait une décision d'Assemblée générale qui lui a accordé ce droit. Pour autant, la Cour d'appel de Paris, dans cet arrêt du 24 janvier 2024, qui a les honneurs, parce que la Cour de cassation l'a même repris sur son site, eh bien, elle juge que le syndicat des copropriétaires, il ne peut pas, en quelque sorte, se déposséder. Il n'a pas la libre disposition de ce droit. Il aurait fallu voter en Assemblée générale, soit une cession, soit avec une contrepartie sur une partie commune à jouissance privative. Mais le règlement, cette clause, elle est réputée non écrite si jamais elle donne d'avance l'accès à la toiture terrasse. Et l'Assemblée générale, elle ne peut pas priver le syndicat des copropriétaires. C'est aussi l'objet du syndicat, c'est de conserver ces parties communes et c'est pas de les céder sans un vote qui aurait dû se faire à la majorité de l'article 26.
Voilà, donc dans ce cas-là, il faut modifier le règlement.
Et avec une contrepartie de prix.
Oui, il faut modifier le règlement de copropriété, hein, c'est ça. Et
exactement.
Il faut créer une partie commune à jouissance privative. Hein. Ça, c'est important. Oui, parce que ça, c'est des cas qu'on trouve, hein, qu'on retrouve hein, assez souvent en copropriété aussi. Hein, donc.
Et c'était deux cabinets très sérieux qui s'étaient opposés dans cette affaire et on retrouve cette décision qui est très intéressante.
Alors, pour finir, le juge est tenu de proposer une nouvelle répartition des charges lorsqu'il constate que la précédente grille est réputée non écrite. Alors ça, c'est aussi un arrêt du 25 janvier 2024.
Oui, toujours très récent. Et en fait, le juge, il doit aller au bout. C'est le parallélisme des formes. Si on détruit, on construit. Donc, il ne peut pas réputer non écrite une grille.
On ne peut pas annuler annuler une clause en disant, ben voilà, elle est réputée non écrite, c'est ça. Voilà, ça ne suffit
exactement.
Pas.
On doit proposer une nouvelle grille. Et moi, j'ai profité de cet arrêt pour rappeler un des arrêts qui, pour moi, est majeur. C'est un arrêt qui est ancien, du 10 septembre 2020, mais qui rappelle que l'Assemblée générale, elle a le pouvoir de déclarer non écrite une clause de répartition des charges et de lui substituer donc une nouvelle grille. Donc ça peut permettre d'éviter des contentieux judiciaires. Donc au syndic de proposer avec un bon rapport de géomètre expert, de constater que ça a été non écrite et de proposer une nouvelle grille en lieu et place.
D'accord, donc là ça évite de rentrer dans de longues procédures. Donc si on peut tout de suite avoir préparé la nouvelle grille, ben, comme ça on la vote automatiquement. Quoi. Et ça, hein, ça c'est voté dans la foulée. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Charles? Des actualités du cabinet? Je sais que, bon, bah là, on va être présent demain au CESE, hein. C'est une journée importante qui réunit les syndicats des professions immobilières, hein, que ce soit l'UNIS et la FNAIM. Donc, on va pouvoir assister à des débats intéressants et peut-être qu'on, voilà, on en reparlera aussi, hein, dans nos sites respectifs. Je pense qu'il y aura matière à revenir là-dessus. Mais est-ce qu'il y a autre chose sinon, une actualité du cabinet ou d'autres événements qui se sont déroulés ce mois-ci?
Non, bah,
rien de spécial.
Un mois de travail, comme on aime.
Voilà. Bon, ben, on va finir là-dessus. Et, ben, merci, hein. Merci pour toutes ces précisions, pour cette veille juridique, voilà, très récente et qui nous permet toujours, ben, d'ajuster au mieux la gestion dans les copropriétés, de savoir ce que l'on a le droit de le faire, ce qu'on ne peut pas faire, avec des cas pratiques, hein, sur lesquels on peut se référer. Et bien sûr, une actualité aussi du secteur de l'immobilier qui bouge beaucoup et donc toujours intéressant de, bah, de suivre ça de très près. Bah, merci Charles Bobotte. À bientôt.
À bientôt,
Isabelle. Voilà. Et puis, donc, on se retrouve le mois prochain maintenant. Allez. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Podcast CoPro par monimmeuble.com.